Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous arrivons à l'étude numéro 6, mais cette étude, je l'ai fait sous une forme de petit livre, il y a environ 42 ans, et je veux essayer, parce qu'en ce temps-là, j'ai jamais entendu parler de CD, il y a 42 ans. Alors donc, je vais essayer de faire ce CD, de le faire d'après ce que j'ai écrit, et espérons que vous pourrez comprendre ce que j'essaye de vous communiquer. La doctrine biblique de la justification, voyez-vous, il faut d'abord rétablir la gravité et l'importance de la doctrine de la justification, car elle n'est pas toujours estimée à l'heure actuelle. Le magazine The Times a poussé un soupir de soulagement déclarant que le principal détracteur théologique de la réforme avait enfin été enterré une fois pour toutes. Désormais, la théologie de la justification n'était plus la clé de voûte de toute Église. Cela signifiait qu'il serait désormais possible de progresser dans un autre domaine que ce sujet. Cette façon de penser n'est pas rare aujourd'hui. Elle est en opposition avec les sentiments de Luther quand il a annoncé que la clause de la justification par la foi est la condition de toute église solide ou église décadente. Cette doctrine était considérée par toutes les églises de la Réforme comme l'un des deux principes de base faisant autorité dans la théologie de la Réforme. L'autorité de l'Écriture sainte était le grand principe de la théologie qui déterminait sa méthode et fournissait la pierre d'achoppement de la vérité. La justification par la foi était le principe matériel qui en déterminait la substance. La justification par la foi était considérée comme l'essence même du message de l'Évangile. L'expression la plus profonde de l'Évangile que la Bible contienne se trouve dans l'Épître aux Romains qui a été considérée comme un pivot pour la compréhension et l'interprétation de l'Écriture sainte. La justification par la foi n'était pas simplement une doctrine parmi tant d'autres, c'est le principe hermétique par lequel l'ensemble des saintes Écritures devait être compris et interprété. Et ça n'était pas une chose obligatoire ou arbitraire qui aurait été imposée d'après des écritures incertaines où l'on a trouvé dans la façon dont l'apôtre Paul lui-même a amené et interprété l'Ancien Testament à la lumière de l'Évangile qui lui a été révélé par Jésus-Christ. Voyez-vous ? Ceci contraste évidemment aujourd'hui avec le peu d'estime dans laquelle la doctrine est confinée par de nombreuses personnes de l'Église. Si nous n'accordons pas à la justification par la foi la place, la gravité et l'importance qui lui ont été octroyées par les réformateurs, donc par l'apôtre lui-même, nous risquerons alors d'interpréter les choses de façon erronée et nous serons enclins à attribuer beaucoup de choses incluses dans le récit qui considère la justification simplement comme un aspect parmi tant d'autres du salut en général. Pourtant, la doctrine de la justification par la foi doit occuper une place fondamentale, pas seulement en raison de sa place au sein du firmament théologique, mais aussi parce que, par expérience, elle doit être le centre de nos relations avec Dieu. Je suis sidéré quand j'entends des chrétiens dire « Oui, nous comprenons l'enseignement de la justification par la foi, mais maintenant nous voulons passer à autre chose. » Cela montre qu'ils n'ont absolument rien compris. La justification par la foi n'est pas une échelle que l'on gravit pour aller où l'on veut aller, dont on peut ensuite se débarrasser tout simplement. La bonne représentation n'est pas celle d'une échelle, mais d'une bouée de sauvetage qui me maintient même sans cesse hors de l'eau, et que je peux absolument pas enlever sous peine de me noyer. Voyez-vous, la justification par la foi n'est pas simplement quelque chose d'utile pour démarrer la vie chrétienne et dont on se débarrasse pour passer à autre chose. Car le juste vivra par la foi. Je répète, le juste vivra par la foi. Alléluia. Qu'est-ce que la vie dans la foi, sinon stimule peccator et justus? Par conséquent, le péché et la vertu en même temps, le péché en moi et la vertu en Christ, le deuil en moi et la joie dans le Seigneur. À chaque instant de mon existence, je compte sur la loyauté de Christ pour me maintenir en vie face à Dieu. La vie charnelle que je vis actuellement, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est sacrifié pour moi. Galates 2, verset 20. La justification par la foi est au centre de la vie et de l'expérience du chrétien. Ça n'est pas quelque chose qu'il peut transcender, dont il peut s'éloigner. Or, quand il parle de cette façon, il montre qu'il n'a pas compris ce que est vraiment la justification. C'est ainsi que, bien compris, la justification par la foi est d'une importance capitale et permanente, aussi bien pour l'Église que pour le chrétien en tant que personne. Et si nous perdons cet acte de vue, ou si nous l'intégrons pas, eh bien la doctrine de la justification est d'ores et déjà en danger. Justifier, cela signifie dans les Saintes Écritures déclarer ou prononcer juste. Cela ne signifie pas rendre juste. Je répète, cela ne signifie pas rendre juste. Le fait que dans la Vulgate, le terme ait été traduit par le mot latin « justificare » a été une lourde erreur. Dans la Bible, « justifier » est un terme juridique associé à une cour légale. Le prisonnier, comparé au tribunal, le témoignage est entendu et le juge prononce le verdict. En prononçant le verdict, le juge n'accentue ou ne diminue pas la personnalité et la condition morale ou immorale de l'accusé. Il ne fait que le déclarer juste ou coupable. Ceci est clairement indiqué dans le Deutéronome, chapitre 25, verset 1. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Où que ce soit utilisé, le terme justifié en référence à notre acceptation de Dieu, il signifie déclarer une personne juste. Je répète, il signifie déclarer une personne juste. il ne signifie pas rendre juste. Je répète, cela ne signifie pas rendre juste. Dieu nous justifie de plein gré par sa grâce. Romains 3, verset 24. Par conséquent, la justification n'a rien à voir avec de la bonté de notre part ou avec notre condition morale et spirituelle. Il est dit que Dieu justifie, déclare juste l'impie. Dieu justifie et déclare juste l'impie. Romains 4, verset 5. Le motif sur lequel il agit n'est certainement pas la vertu du pécheur pour laquelle il n'a personne, mais sur la base de cette vertu que Dieu lui-même a révélée et pourvue en Jésus-Christ. Romains 5, versets 21 et 22. Le croyant est donc dans le Christ par la foi. Et la parfaite vertu de Christ lui est accordée. Romains 4, versets 6 à 8. Ceci pourrait être résumé dans ces paroles de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 9. Il avait pour ambition d'être trouvé en Christ juste, non pas en ayant sa propre justice qui est du ressort de la loi, mais par celle qui découle de la foi en Christ, la justice qui est Dieu par la foi. C'est cette doctrine biblique et le pouvoir libérateur que les réformateurs ont compris et qu'ils ont testé quand ils ont eu accès à la signification de l'enseignement de l'apôtre Paul aux Romains. Cela les a libérés du nouveau légalisme qui avait été érigé par l'Église de Rome. L'Église de Rome avait fait admettre la loi dans la justification. C'est arrivé principalement de deux façons. D'abord, lorsque Jérôme a traduit la Bible, il a utilisé le terme justificare pour traduire le mot grec dikaiun, justifié. C'était une erreur majeure, car elle a conduit à transposer, déclarer juste, en rendre juste. Et l'utilisation universelle de la Vulgate, à cette époque, a entraîné la disparition du concept biblique de la justification et son remplacement pour la notion qu'être justifié est un processus dans lequel l'individu devient ou est rendu juste ou vertueux de lui-même, moralement et spirituellement. Le second facteur contribuant à introduire la loi dans la justification a été l'adoption au Moyen-Âge de la philosophie d'Aristote par l'Église romaine comme ossature de la théologie. Aristote enseignait que l'homme juste ou vertueux était celui qui faisait de bonnes œuvres. C'était ces bonnes œuvres qui le rendaient juste ou vertueux. Une habitude ou une propension à la bonté ou à la vertu se construisait et s'installait en lui par la pratique des bonnes œuvres. Et c'est ainsi que l'Église, en quête d'une synthèse de la révélation et de la philosophie, a enseigné que la vertu ou la justification était le résultat des bonnes œuvres accomplies et réalisées par l'infusion de la grâce. Ainsi donc, la combinaison d'une traduction erronée des Saintes Écritures jointe à l'adoption d'une philosophie qui ne se basait pas sur des présomptions de l'Écriture sainte, a donné une vision totalement fausse de la justification qui perdait de vue les enseignements vrais de la Sainte Bible à ce sujet. Il y a là deux avertissements portés à notre attention, des traductions mauvaises ou approximatives de la Bible représentant un sérieux danger nous devons faire donc très attention à ce que la version utilisée à l'Église soit une version qui reflète fidèlement l'enseignement de l'Écriture sainte. Aucune traduction ne fait cela. Deuxièmement, nous devons particulièrement nous méfier des philosophies qui exercent une si forte attraction sur certains comme support de communication de l'Évangile. Je pense à l'existentialisme et certains autres, mais qui résultent de la distorsion et la mauvaise représentation de l'Évangile. Réduisons ainsi la vérité de l'Évangile aux pensées des hommes. Nous devons toujours être conscients des antithèses entre la sagesse humaine et la révélation divine. Or, la sagesse du monde est une folie pour Dieu, c'est pas moi qui le dis. C'est alors en pleine apogée de la liberté de l'enseignement de la justification biblique que sont arrivés les réformateurs. Il est important de rappeler comment cela s'est passé afin que nous puissions comprendre comment, sous l'égide de Dieu, ils ont rétabli la doctrine biblique dans les églises de la Réforme. Luther ne s'est libéré que graduellement de la vision erronée de la justification qui prévalait universellement à cette époque-là. Nous pouvons suivre le développement de ses pensées à ce sujet, et c'est la raison pour laquelle il est dangereux de conclure qu'à une époque, dans une des œuvres de Luther, nous trouverons un exposé clair de la doctrine biblique de la justification dans sa totalité. Ses premières œuvres ne sont pas toujours explicites à ce sujet et sont encore, à certains égards, esclaves d'un enseignement médiéval. Et c'est pourquoi certains écrivains catholiques romains ont suivi le jeune Luther, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent démontrer que Luther a enseigné une doctrine de la justification conforme à leur point de vue. Luther est passé par trois phases. Premièrement, il a conçu la justification en termes de simples actes humains de vertu, des actions légales accomplies par l'homme. Il s'est ensuite libéré de cette vision quand, en étudiant l'Épître aux Romains pour ses sermons en 1515 et 1516, il s'est aperçu tout à coup que la vertu de Dieu dont parle saint Paul ne juge pas seulement les pécheurs, mais qu'elle les sauve aussi. Il a fait appel à saint Augustin. La vertu de Dieu est ce par quoi le pécheur est rendu juste, comme la sagesse de Dieu est ce par quoi nous sommes rendus sages, etc. Mais la vertu dont parle Luther ici dans cette seconde phase de sa compréhension est une vertu infusée. Dieu rend le pécheur juste par l'usage de la grâce qui lui permet de faire de bonnes œuvres et ainsi d'être jugé favorablement par le juge légitime. Ceci n'est cependant que la vertu propre à l'homme, même si c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Cependant, il fallait que la pensée et l'expérience de Luther aillent plus loin. Alors qu'il était absorbé dans l'étude de la Sainte Bible dans son petit bureau de la tour du monastère de Wittenberg, il s'est aperçu, et cela a eu une force de révélation, le Saint-Esprit me l'a révélé, a-t-il dit, que la vertu par laquelle nous sommes justifiés n'est en aucun cas notre vertu. Romains 3. Je répète que la vertu par laquelle nous sommes justifiés n'est en aucun cas notre vertu. Ça n'est pas quelque chose qui se fabrique dans l'homme, même par la grâce, c'est une vertu passive, c'est la vertu de substitution de Christ accordée aux croyants. Ce n'est pas une sorte de travail, mais un cadeau absolument gratuit, non pas transmis, mais attribué, non pas inhérent, mais extraterrestre. C'est la vertu surnaturelle de Christ qui n'est jamais celle du pécheur, mais toujours celle de Christ et qui est maintenant accordée aux croyants. C'est la doctrine affinée de la justification. C'est la doctrine qui a libéré Luther. C'est la doctrine qui a été condamnée au Concile de Trente et dont j'ose dire qu'elle ne sera jamais acceptée par l'Église catholique romaine. Émergence de la doctrine complète. L'expérience des réformateurs de la doctrine de la justification par la foi a établi beaucoup de choses qui sont fondamentales pour sa propre appréciation. Premièrement, nous avons la profondeur du péché et de l'iniquité humaine. Aussi longtemps que les hommes ont pensé que par les œuvres, ils pourraient être agréables à Dieu et satisfaire aux exigences de sa vertu, le péché a été banalisé, son étendue et sa profondeur n'ont été ni comprises ni reconnues. Les réformateurs ont vu que la vision biblique du péché était beaucoup plus sérieuse. Il était reconnu comme étant un désordre inhérent à la nature humaine qui affectait tout et qui est ce qu'on appelle la dépravation totale. Luther disait du pape et des évêques, par le péché mortel, ils n'ont compris que les actes extérieurs commis contre la foi, au même titre que le meurtre, le vol et toute chose de la sorte. Ils n'ont pas vu que l'ignorance, la haine et le mépris de Dieu sont aussi des péchés mortels et que la chair ne peut ni penser, ni parler, ni faire quoi que ce soit, sinon ce qui est démoniaque et ce qui est ligue, qui se ligue carrément contre Dieu. S'ils avaient décelé ces méchancetés profondément enracinées dans la nature humaine, ils n'auraient jamais osé léguer des rêves aussi exécrables et impudents, touchant en quelque sorte au désert de la conformité et de l'honneur, Épître aux Galates. Deuxièmement, ils en sont arrivés à comprendre correctement la nature et le but de la loi de Dieu. Il n'est pas signifié que ce soit une règle de rectitude à réserver aux pécheurs pour ainsi se rendre juste face à Dieu par leur supposée conformité à la loi. Ça doit être, comme l'a dit l'apôtre Paul, un maître d'école qui nous punit afin de nous amener vers Christ. Moïse utilise le fléau et le châtiment de la loi pour, en quelque sorte, terrifier les consciences et ainsi révéler à l'homme la désespérance et l'impuissance de sa condition hors du Christ et de l'Évangile. Car, disait Luther, il est impossible pour la nature humaine d'accomplir la loi, oui, même pour ceux qui sont justifiés et qui ont reçu l'Esprit Saint. Si le justifié ne peut le faire, comment l'impie, celui qui n'a pas l'Esprit Saint, pourrait-il y parvenir ? Épître aux Galates. Alors je répète parce que c'est important, car disait Luther, il est impossible pour la nature humaine d'accomplir la loi. Oui, même pour ceux qui sont justifiés et qui ont reçu l'Esprit Saint. Si le justifié ne peut le faire, comment l'impie, celui qui n'a pas l'Esprit Saint, pourrait-il y parvenir ? Épître aux Galates. C'est donc possible, jusqu'à un certain point, de droiture extérieure, mais cela ne justifie pas devant Dieu. Aussi bon que cela puisse paraître aux yeux des hommes, en raison de la nature spirituelle de la loi qui pénètre les pensées et se présente au cœur, nos cœurs sont dans l'erreur avec Dieu de sorte que nous ne pouvons lui plaire. Une juste compréhension du but et de la place de la loi est d'une importance fondamentale. Ceux qui pensent que la fonction de la loi est de justifier obscurcissent et bouleversent tout. La loi inscrite dans ce péché devrait abonder, selon Romains chapitre 5, verset 20. Et comme Luther l'a commenté, c'est un grand devoir, ma foi. Troisièmement, ils sont parvenus à une juste compréhension de la foi. La foi, c'est par nature croire au Christ et s'en remettre entièrement à lui pour le salut. Luther a dit, la vérité de l'évangile, c'est que notre vertu vient uniquement par la foi sans les œuvres de la loi. La corruption ou la falsification de l'évangile, c'est que nous sommes justifiés par la foi, mais pas dans les œuvres de la foi. Épître aux Galates. La compréhension de la foi par les réformateurs, dérivée des Saintes Écritures, agissait absolument pas d'un travail. Il s'agissait pas d'un travail, mais c'était une foi qui reconnaissait sa bassesse complète et qui s'en remettait elle-même, ou plutôt d'elle-même, entièrement à Christ et à sa parfaite vertu. La foi ne sauve que si elle reste attachée à Christ. La foi étant à elle seule un juste devoir, elle n'a d'autres objets que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Épître aux Galates. La foi, c'est l'anneau qui enchasse ce précieux joyau qui est le Christ. C'est ainsi que la foi rejette en bloc toute autre façon de devenir vertueux face à Dieu, qu'il s'agisse d'œuvres de charité, d'œuvres d'amour de son prochain, de services rendus à Dieu, de prières, de jeûnes, de dons aux pauvres ou de quoi que ce soit. Luther disait, nous ne nions pas que les fidèles doivent suivre l'exemple de Christ et de bien œuvrer, mais nous disons que cela ne les justifie pas aux yeux de Dieu. Je répète, Luther disait que nous ne nions pas que les fidèles doivent suivre l'exemple de Christ et bien œuvrer, mais nous disons que cela ne les justifie pas aux yeux de Dieu. À ce sujet, nous n'allons pas nous voiler la face, mais Jésus-Christ, mourant pour nos péchés et ressuscitant pour notre vertu, nous devons l'appréhender par la foi comme en quelque sorte un cadeau et pas comme un exemple, Épître aux Galates. Quatrièmement, ils ont obtenu une juste compréhension de la grâce. Pour l'Église de Rome, la grâce était devenue une substance infusée permettant d'œuvrer pour le bien. Cette grâce infusée arrivait avec le baptême et se maintenait en quelque sorte par les autres sacrements. L'individu doit ainsi améliorer sa justification et progresser en elle. Rome a travaillé sur la théorie citée précédemment, selon laquelle les œuvres justes rendent un homme juste. Magnifique. Cependant, les réformateurs, en accord avec l'Écriture sainte, ont commencé d'une manière opposée. La justification est quelque chose de déjà accompli et conféré aux croyants par la grâce. Je répète, la justification est quelque chose de déjà accompli et conféré aux croyants par la grâce. La grâce n'est pas une substance infusée, mais un bienfait gratuit et une faveur de Dieu qu'il nous montre par le salut de Christ. Le pécheur ainsi justifié est régénéré par l'Esprit Saint et, en tant qu'homme régénéré, il réalise des œuvres qui attestent de son nouveau statut devant Dieu et de la nouvelle nature qu'il a reçue. Il en a immédiatement résulté que l'Église de Rome a concentré ainsi toute son énergie pour extraire de l'Évangile ce qui a été découvert, et dans ce but, le Concile de Trente a appelé et proféré ses décrets et ses canons contre la doctrine de la justification uniquement par la foi. Les principaux décrets du Concile de Trente concernant la justification ont été énoncés lors de la sixième session comme suit. La vertu des justifiés est partie d'eux-mêmes. Elle inclut l'instillation de la foi, de l'espérance et de l'amour pour la foi, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter l'espérance et la charité, ni souder parfaitement l'homme à Christ, ni même en faire un membre vivant en son corps. Chapitre 7. Sa vertu doit progresser par les bonnes œuvres qu'elle aura réalisées en coopération avec la grâce accordée. Chapitre 10. Ceux qui tombent dans le péché, qu'ils soient sans gravité ou qu'ils soient mortels, seront rétablis par la pénitence et l'absolution sacerdotale. Le péché véniel ne confisque pas la justification, le péché mortel l'annule. La pénitence et l'absolution sacerdotale dispensent de la punition éternelle, mais pas de la punition temporaire. Chapitre 19. La vie éternelle est la récompense pour ceux qui gardent la foi et font de bonnes œuvres. La grâce de Dieu accordée à ceux qui sont en Christ permet de faire de bonnes œuvres et de satisfaire à la loi de Dieu et ainsi de mériter la vie éternelle. Chapitre 16. En résumé, le Concile de Trente nous enseigne que la justification suivant le système catholique romain est A. la rémission des péchés par le salut de Christ, B. la transmission d'une nouvelle nature, C. l'infusion de la grâce par laquelle nous faisons de bonnes œuvres, D. l'augmentation de la justification ou de la vertu, E. et le droit à la vie éternelle, F. les sacrements en tant que système de grâce sont les instruments principaux et le support de la justification. Les canons qui ont suivi les décrets ont éclairé au travers d'une série d'anathèmes contre l'enseignement des réformateurs quelle doctrine l'Église de Rome ne tolérait sous aucun prétexte. Canon 9. Celui qui annonce que l'impie est justifié uniquement par la foi, qu'il soit maudit. Canon 12. Celui qui dit que la foi justificatrice n'est rien d'autre que la confiance en la miséricorde divine qui efface les péchés par le salut de Christ, ou bien que c'est uniquement cette confiance qui nous justifie, qu'il soit maudit. Canon 13. Celui qui dit qu'il est impossible de pratiquer les commandements de Dieu, même pour l'homme justifié, est constitué en grâce, qu'il soit maudit. Il y a beaucoup d'autres choses, mais ces citations suffisent à montrer combien l'enseignement de la Bible et des réformateurs était opposé au Concile de Trente. Nous avons sans aucun doute une série de règlements des réformateurs et du Concile de Trente diamétralement opposés. Ce que le premier affirme, le second le nie. Il n'y avait aucune base, on peut dire aucune base commune entre eux. Voyez-vous, on pourrait dire, ces exposés peuvent nous embrouiller et nous écarter des vérités fondamentales. Ce sont un peu des aveugles qui conduisent des aveugles. Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Et j'ajoute, tôt ou tard. Ça, c'est certain. Hein? Absolument certain. L'archevêque Ryle. Voilà un archevêque qui était important et il a écrit des livres fabuleux. L'archevêque Ryle. Il a dit, je suis persuadé que la cause majeure du sentiment d'obscurité et d'inconfort que ressentent beaucoup de gens bien pensants au sujet de la religion vient de leur habitude à confondre ou à ne pas distinguer la justification de la sanctification. On ne gardera jamais assez à l'esprit que ce sont deux choses distinctes. Il ne fait aucun doute qu'elles ne peuvent être divisées. Celui qui prend position pour l'une d'elles prend position pour les deux. Mais jamais, jamais, elles ne doivent être confondues et jamais on ne doit oublier leurs différences. La sainteté, page 31. Et James Buchmann, l'auteur de la doctrine de la justification, a écrit « En ce qui concerne la nature de la justification, l'erreur fondamentale de l'Église de Rome réside dans la confusion de la justification. Avec la sanctification, les écrivains baptistes se sont trompés et les ont virtuellement identifiés. Ils ont, par cette erreur, apporter la confusion et l'obscurité dans tout le schéma de la vérité divine. Page 128. Écoutons encore attentivement les distinctions que fait Ryle, donc l'archevêque Ryle. La justification est l'estimation d'une personne qui doit être vertueuse par le salut de Christ. La sanctification est la construction actuelle d'une personne intérieurement vertueuse. La vertu que nous avons dans la justification ne nous appartient pas. La vertu que nous avons dans la sanctification nous est propre. Dans la justification, nos œuvres ne tiennent absolument aucune place. Dans la sanctification, par contre, nos propres œuvres sont très utiles. La justification est donc une œuvre accomplie et terminée. La sanctification est une œuvre imparfaite et incomplète. La justification n'admet aucune croissance. La sanctification, par contre, progresse au fil de la vie. La justification confère un titre pour entrer au ciel, ainsi que du courage. La sanctification, elle nous donne une aptitude au ciel et nous prépare à le savourer. Voyez-vous ? Ensuite, prenons par exemple la confession de Westminster. Au chapitre 11, Première partie. Ceux que Dieu a effectivement appelés, il les a aussi gratuitement justifiés, non pas en leur infusant la vertu, mais en pardonnant leurs péchés et en estimant qu'ils ont une personnalité vertueuse, non pas au travers de quelque chose qui serait façonné en eux, comme s'ils l'avaient fait eux-mêmes, mais uniquement par le salut de Christ, non pas en attribuant la foi même qui est l'acte de la croyance, mais en leur instillant l'obéissance et la satisfaction de Christ. Ils reçoivent ainsi et se reposent ainsi sur lui, sur Jésus-Christ et sur sa vertu par la foi, cette foi qu'ils n'ont pas d'eux-mêmes. Ça, c'est le cadeau de Jésus-Christ. C'est la vie, c'est la santé et la paix. Tout cela pour ceux qui sont chargés de péché et qui sont conscients de leur bassesse indigne. C'est la doctrine si simplement et pourtant profondément exprimé par ces paroles de John Bunyan, lorsque il est parvenu à la comprendre par la foi. Un jour, dit-il, me promenant dans la campagne, cette phrase est tombée dans mon esprit selon laquelle la vertu est au ciel. En outre, il m'a semblé voir avec les yeux de mon âme, Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Je dis que ma vertu est là-bas. Par conséquent, qui que je sois, quoi que je fasse, Dieu ne parlerait pas de moi. Il veut que les faiblesses de ma vertu lui soient exposées. Enfin, j'ai également vu qu'il n'y avait pas de bonne prédisposition du cœur qui ait amélioré ma vertu, ni même ma mauvaise prédisposition qui ait empiré ma vertu, parce que ma vertu se trouvait en Jésus-Christ en personne, le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Hébreux, chapitre 13, verset 8. L'abondance de la grâce pour le chef des pécheurs, page 72. Oui, pas de contester, mais si on le pouvait, c'est ce rapport qui l'anéantirait. Et donc c'est pourquoi nous n'avons pas d'autre chose que de rejeter et de mettre en garde contre ces dangers fourbes, de même que l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates a prévenu du danger subtil d'un autre évangile. Donc, si ce rapport était accepté par les évangéliques, pensez un peu au changement qu'il nous faudrait apporter à nos hymnes, à nos chants préférés, qui spécifient que la doctrine de la justification est uniquement par la foi. Je sais que certains d'entre vous sont actuellement d'accord pour modifier les cantiques, pour supprimer « thou », vous, et « thine », le vôtre, considéré comme langage sexiste. Les résultats sont souvent des monuments de banalité, car la Bible, qui est la Bible anglaise d'origine, vous savez, il y a des thou, thine, thee et tout cela. Mais c'est une Bible qui est absolument fidèle. Mais pensez à ce que cela signifierait. Mon espérance n'est bâtie sur rien d'autre, écoutez bien, que sur le sang de Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul s'est aperçu que la liberté de la justification par la foi était menacée par l'action de l'apôtre Pierre à Antioche. Voyez, incident, on peut dire, car je pense que c'est une raison suffisante à la conduite que nous devons prendre envers la Siacre 2. Et là, l'apôtre Paul n'avait pas une baguette magique en main, puisqu'il s'agissait de l'article maître de toute la doctrine chrétienne, l'utilité et la majesté auprès desquelles tout le reste devrait sembler de moindre importance pour celui qui la comprend correctement. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre? Qu'est-ce que l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'un ange céleste? Que sont toutes les créatures réunies face à l'article de la justification que, à ce moment-là, l'apôtre Paul a vu en danger en raison de la conduite de l'apôtre Pierre? C'est pourquoi il a été obligé de mettre de côté la dignité de l'apôtre Pierre pour sauver la vérité. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas tristes pour la défense de la vérité de passer pour hypocrite, pour passer pour fier et têtu, de manière à ne suivre que la sagesse, à n'écouter personne d'autre, à ne céder la place à personne d'autre, car maintenant nous avons besoin d'être têtus et inflexibles. Lisez l'Épître aux Galates. Connaissant maintenant l'importance de l'enjeu, prions pour la résolution de nous en tenir fermement à ce que nous croyons être la vérité. Le compromis, disait B.B. Warfield, n'a jamais servi la cause de l'Évangile, jamais, et il ne le servira jamais. Ça, c'était donc l'étude de la doctrine biblique de la justification. Nous allons terminer par la prière. Prions. Ô Esprit du Dieu vivant, dérange notre sommeil, notre orgueil, notre apathie. Viens sur nous comme une flamme dévorante, nous purifions de toute souillure et nous arrachons aux ténèbres de notre esprit. Viens à nous comme un vent puissant et frémissant, dispensant ainsi les brouillards de nos doutes, excitant nos âmes à l'action, leur rendant la santé et balayant les craintes qui nous ont tenus si longtemps captifs. Oui, nous disons cela dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et demain matin, Dieu voulant, la suite pour cette série, ou peut-être pour une nouvelle série, je verrai, selon ce que l'Esprit Saint me dictera, ou plutôt me donnera dans le cœur de vous transmettre. À bientôt, à demain matin.